forumopera.com. Qu'avec Anem, par Camille de Richck.
Fidèles auditeurs de Forum Opéra et de Cobos, bonjour, merci d'écouter ce 11e numéro de Qu'avec Anem que nous vous présentons depuis les studios Cobos à Paris, métro Belleville, entre le Surcouf et la boutique de Monsieur Wang. Émission spéciale Noël avec des surprises, des cadeaux à gagner, de la musique festive et des invités merveilleux habillés de guirlandes et garnis de boules scintillantes. Autour de notre table en formica, trois experts sur les nerfs. L'approche des fêtes leur aura ôté toute patience. Ils sont là, remontés et furieux, prêts à condamner sans réserve le moindre contrut de vriller. À ma droite, voûté et sombre, tel le pénitent Sylvain Faure de Classica. À ma gauche, lubriquement affalé sur son siège, en ses langueurs jésuitiques, Mehdi Madani. Face à moi, rosé frais, l'œil vif comme un parlementaire et luisant comme un Christmas pudding, Lawrence Dale, notre consultant, et au milieu, notre nouvelle arrivante, fraîche, suave et dévêtue, Laetitia Stagnara de Forum Opéra. Bonjour mes amis et joyeux Noël.
Merci Noël. Camille.
Laetitia, on t'a pas entendu.
Je vais partir me revêtir.
Programme licencieux aujourd'hui, programme frivole en forme de feu d'artifice, vu que nous évoquerons sur fond de Jingle Bells, les nouveaux disques d'Ildebrando d'Arcangelo, de Nathalie Dessay, de Cecilia Bartoli, et nous nous pencherons enfin sur le Falstaff de Leonard Bernstein. Au terme de cette émission, nous aurons passé sous notre loupe experte pas moins de 7 873 000 tris de 43,2 contrutes tonitruants, d'une demi-douzaine d'apogiatures de mauvais goût, sans évoquer les soupirs, les sanglots et le sang, de quoi passer un merveilleux réveillon dans la joie et la paix du Christ. Nous commençons par le nouveau disque d'Ildebrando d'Arcangelo. Alors voilà, disant qu'Ildebrando d'Arcangelo a coup de yacht coquine fait fantasmer la ménagère de moins de 40 ans.
Et en dessous. Hein.
Et que son derrière musclé, grâce à des sessions quotidiennes de powerplay, t'inspire aux folles lyriques des petits cris et n'amourait, n'est-ce pas, Mehdi ? Tout juste oublierait-on presque que derrière ses triceps huileux se cache un chanteur d'opéra. Le voilà donc face au micro pour un premier album solo qu'il consacre à Friedrich Händel, comme c'est original. On l'écoute dans Voli con la sua tromba d'Ario Dante.
Non può mandar. con la sua tomba. La fama in tutto il mondo, le gioie a pubblicar, voli con la sua tomba. Voli con la sua tomba le gioie a pubblicar. Voli con la sua tromba, la fama in tutto il mondo, le gioie a pubblicar. Voli con la sua tromba, voli con la sua tromba, le gioie a pubblicar.
Voilà, c'était Voli con la sua tromba de Ario Dante, chanté par Ildebrando d'Arcangelo. Alors, vous avez entendu ces magnifiques vocalises, ces roulades mécaniques. Et bien entendu, je vois Mehdi qui trépigne, car il a envie de donner son opinion sur ce disque et sur les sessions de Powerplay.
J'ai une pratique du Powerplay derrière moi, lointaine. Hein, non, plus sérieusement, ce disque est une grande déception. Alors, c'est une entrée... Ildebrando d'Arcangelo chez Deutsche Grammophon, qui lui a proposé ce disque Handel. On aurait peut-être préféré un disque Mozart, mais là, on touche un peu à la limite de ce chanteur, c'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il chante un peu toujours la même chose. Et il chante Alidoro, il chante, bon, il chante Don Giovanni maintenant, parce qu'il a chanté de Leporello, il chante Figaro, mais ça se limite un peu à ça. On le voit de moins en moins sur scène. Il a annulé tous ses derniers engagements à Paris. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu. Et alors, est-ce que la voix a mal vieilli ou est-ce que le micro ne la capte pas bien? Mais j'ai trouvé ça plus gris que dans mon souvenir. Déjà un manque de couleur. Et puis, il y a surtout un style un peu générique. Tout est un peu chanté de la même manière, sans véritable conscience de la rhétorique de ses airs, sans véritable conscience non plus de là où ça doit aller, du sens de la phrase, du sens de la vocalise. Il y a une certaine agilité, mais qui a tendance parfois à se confondre avec un vibrato qui grelotte un peu. Le grave n'est pas forcément très présent. C'est assez frappant dans l'air Fra l'ombra e gli orrori de Acci Galatea e Polifemo, qui avait été enregistré par Laurent Naouri avec une voix, évidemment un matériau de base évidemment beaucoup moins beau, mais qui faisait finalement beaucoup plus d'effet que cette interprétation un peu tout le temps mezza voce. Enfin, tout ça n'a pas grand intérêt. On ressort de là en se disant que oui, bon, on a entendu un disque Handel d'une oreille un peu distraite. En plus, l'orchestre ne donne pas vraiment le change. C'est très étriqué, ça manque de basse, les dessus sont très décoratifs. Enfin, voilà, dans l'ensemble, c'est quand même une grande déception de la part d'un chanteur qui quand il a commencé, était très prometteur et dont on se demande finalement aujourd'hui jusqu'où il ira vraiment, est-ce qu'il tiendra ses promesses ou pas ?
Laetitia.
Alors moi j'étais, comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, déjà acquise à la cause d'Arcangelo pour plein de raisons très évidentes. D'abord pour sa tessiture, du reste qui se prêtait assez bien finalement au jeu de Handel, puisque une basse baryton c'était plutôt quelque chose qui s'accordait bien à l'exercice. Bon, pour son physique, c'est complètement évident aussi. Après, je partage l'avis de Mehdi dans le sens où j'ai été très déçue. Pour être honnête, j'ai trouvé ça terriblement emmerdant.
Surtout que l'album manque de photos nues.
En plus, alors je me suis dit qu'il aurait dû proposer justement la partie basse de son corps à Sacrificium, ça aurait permis de faire un parallèle avantageux. Mais toujours est-il que c'était assez plat, c'était... Alors,
tu parles du bâton. Les photos de Chile.
C'était non, j'ai trouvé que ça manquait en fait beaucoup de... Alors déjà, j'ai pas trouvé ça systématiquement très juste, notamment justement pour le polyphème dont tu parlais, Mehdi. On a des sauts abominables dans la tessiture. Une couleur de voix, on a l'impression qu'il est tellement crispé sur l'exercice physique de réaliser ses sauts qu'il pense plus du tout à la couleur de sa voix, qui est finalement un peu grêle à certains moments, sans épaisseur dans les graves, très ennuyeuse. Et oui, j'avais aussi beaucoup apprécié, j'étais plus positive que Mehdi sur la version de Nahouri, justement, que je trouvais très colorée, avec des vraies variations dans les... on avait des sons très tendres, après des...
C'était quoi ça?
Pardon. Laurent Nahouri sort de ce corps.
Non, je trouvais que c'était très très varié en termes de couleurs et quelque
chose
qu'on n'a pas vu.
La voix de Laurent Nahouri est très très colorée. merci Laetitia. tu voulais peut-être ajouter quelque chose, je te sens encore toute frétillante. Lawrence, j'ai vu tes yeux paniquer. Alors on sait ici que tu es notre consultant et que tu n'aimes dire que du bien des gens. En même temps parce que c'est Noël, parce que tu as bon fond, mais aussi parce que tu espères un jour travailler avec eux et que tu es un infâme marchand.
Mais vous êtes tous très gentils, je peux être très méchant en même temps, tu te trompes complètement sur le plan qu'il apprend Don Giovanni maintenant, parce qu'il y a des siècles, j'ai chanté dans Ottavio avec lui, c'était son premier Don Giovanni, jusque-là il chantait très bien les Porello, c'est un garçon charmant avec une très belle voix.
C'est la mise en scène où Don Ottavio est le grand-père de Don Giovanni.
Non, mais c'était encore plus que ça. J'étais dans Ottavio, était à un moment donné le dalmatien, le chien.
Mais c'est la production dont tu nous parlais il y a quelques mois.
Le chien, voilà, le chien de Madonna. Enfin, c'est ça l'idée. Madonna, c'était Madonna.
Tu étais en dalmatien.
Oui, j'étais en
dalmatien. Madonna, Anna.
Donc, peut-on avoir ton opinion sur ce disque plutôt que de reprendre nos invités?
Plutôt que mes fantasmes passés. Ok, très bien. Non, mais je trouve la voix a une couleur. Mais le problème dans ce disque, on entend presque seulement une couleur, normalement, et il a des extensions de graves et des aigus, mais comme vous dites, exposés dans cet enregistrement, sont des changements de couleur qui ne correspondent pas avec sa vraie voix. Et je trouve que les graves sont présentes, mais un peu trafiquées, un peu appuyées. Les aigus, il sort des aigus, surtout dans l'air de Polyphème, qui expose également, je suis d'accord, les problèmes d'intonation. Mais je suis un peu déçu parce que ce garçon qui a beaucoup de talent, qui a chanté de très bonnes choses comme Rossini et pas mal d'enregistrements de Mercadante et des choses comme ça, j'aurais dû préférer entendre un disque de lui où il chante les airs de Meyerbeer, de Mayer, des choses.
C'est un peu ça qui me surprend aussi quand je vous entends tous les trois, on entendra Sylvain dans une seconde, c'est que vous parlez beaucoup de la voix, mais pas du tout du concept, et ça tendrait à prouver que le concept est complètement absent.
J'allais en toucher deux mots.
Non, mais je trouve à ce moment-là, où on a tant de spécialistes à Handel, que c'est un peu bizarre, un peu vieille école, si on veut, sortir un disque comme ça, qui n'entre pas dans les recherches actuelles, les réflexions. Regardez, les disques qu'on a sur nos listes là exposent, on met en question des gens comme Bartoli et d'autres personnes comme Di Donato, et c'est une question de goût, mais ils ont fait les recherches dans le Rossini, dans le Handel, dans d'autres compositeurs. Et
c'est vrai que Di Donato a beaucoup de mérite d'avoir ressorti le barbier de Séville des tiroirs de bibliothèque. Sylvain.
Évidemment pas convaincu. Évidemment, je partage les réserves. Cela dit, effectivement, le concept du disque est ce qui, sans doute, dans tout cela, est le plus désastreux, me semble-t-il, dans la mesure où très honnêtement, on en a quand même ras la casquette des récitals Händel. Et je trouve que c'est vraiment un cadeau empoisonné qu'on a fait à cet artiste que de le faire entrer officiellement sous le label Deutsche Grammophon avec un récital Händel auquel absolument rien ne le prédispose. Alors qu'un récital belcantiste, Donizetti, Bellini, ou comme tu le disais, même en allant jusqu'à Meyerbeer ou des gens comme ça, aurait permis, je pense, à D'Arcangelo d'exprimer autre chose, car je crois que c'est un chanteur qui n'a pas une voix, en réalité, instrumentale. C'est-à-dire qu'il n'est pas extraordinaire dans la vocalise, il n'est pas extraordinaire dans la virtuosité. C'est un chanteur qui paye comptant en scène, parce qu'il a le physique, parce que c'est un acteur, c'est un chanteur de tempérament, ce n'est pas un chanteur de grande guirlande.
Oui, il a une belle ligne.
Pour en rester à Noël. Et donc, je trouve que...
Belle ligne.
Oui, il a une belle ligne plate.
Non, je parle de ligne vocale.
Ah, pardon. Donc voilà, je trouve que le concept est désastreux. Je ne comprends absolument pas du tout pourquoi on lui a confié ce truc-là, sinon par frilosité de la direction artistique. Et je crois qu'on lui a joué un très, très mauvais tour.
Merci. Donc, le pauvre Hildebrando est...
Ah non, non, je peux dire autre chose.
Oui, rapidement.
C'est que c'est grand mérite à un homme comme lui d'avoir su s'imposer avec un nom pareil.
Il a le physique pour ça.
Merci Sylvain.
J'aimerais bien voir où tu en serais dans la vie si tu t'appelais Hildebrand.
Je m'appelle Camille et c'est très dur car quand je reçois des emails, on m'appelle chère madame. Comme Gérard Mortier l'autre jour qui m'a envoyé un gentil petit mot, bah, commençait par chère madame. Ce qui m'a beaucoup.
Écoute, moi j'étais toute ma vie madame Laurence Dale Ténor. Et même pendant que j'ai eu une intervention pour la hernie et la bonne femme me regardait bien et dit c'est madame Laurence Dale. Je dis mais de là, je crois que vous comprenez bien c'est monsieur. D'accord?
Merci de ces précisions.
Okay, petite intervention.
Alors, nous passons au disque suivant. Je vous demanderai vraiment, tous autant que vous êtes, d'être très prudents, car nous marchons sur des œufs. Alors, il s'agit évidemment, on le sait, du dernier disque de Nathalie Dessay, du dernier disque compilation de Nathalie Dessay, intitulé Mad Scenes. Alors, on l'aura bafoué, roulé dans la boue, on l'aura dit fini, usé, prématurément vieilli. Sylvain Faure aura craché sur ses roulades Dieu. Mehdi Madavi aura frémi à l'écoute de son disque Bach. Moi-même, je tremble à la simple évocation de son nom. Et pourtant, malgré tout ça, Nathalie Dessay sort un nouveau disque. Enfin, nouveau, c'est beaucoup dire, vu qu'il s'agit ici d'une compilation, comme je le disais, de ses plus belles scènes de folie. Alors ici, la roulade Dieu est appelée par l'écrin philologique. Nathalie peut-elle profiter de l'occasion qui lui est donnée pour faire la nique à tous ses détracteurs et pour montrer de quel bois elle se chauffe? J'avoue qu'au terme de l'audition, on a surtout tendance à courber les chines, à regarder ses pieds et à chuchoter timidement « Nathalie, j'ai douté de toi et je suis en indélicat doublé d'un rustre ». On l'écoute dans « Glitter and Be Gay ».
Until my maiden heart burns.
C'était Glitter and Big Gay, chanté par Nathalie Dessay, live, rock'n'roll. Et je vois Laetitia qui bouge encore son corps sur la musique de Bernstein. Alors Laetitia, une fois que tu te seras calmée, tu pourras nous dire ce que tu en as pensé.
Je serai assez brève sur ce sujet-là, n'étant pas une inconditionnelle de Nathalie Dessay, et sachant que c'était des choses qu'on avait déjà entendues d'elle dans Madsine. Donc, rien de très nouveau, mais en même temps, toujours un plaisir à l'écouter.
Lawrence.
Moi aussi, j'ai déjà entendu presque tous ces extraits. Je ne connaissais pas l'enregistrement qu'on vient d'entendre. D'ailleurs, c'était enregistré où ?
À Portsmouth.
Portsmouth. Et pourtant, je suis souvent à Portsmouth. Alors, alors très bien. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec cet air, le Glitter and Big Gay. Voilà. Et puis, j'étais impressionné par des graves. Quand j'ai compris que c'était live, j'ai compris un petit peu aussi les choses qui étaient pour moi un peu des qualifications de mon appréciation. Je veux dire, par exemple, le dernier aigu, le si on écoute encore une fois, dans la deuxième partie de l'aigu, c'est absolument magnifique. Dans la première partie, cet aigu, on dirait qu'elle cherche une espèce de position. Et ça, c'est souvent le cas avec le chant de Nathalie. Ce qui est extraordinaire avec cette fille, elle fait enflammer une salle par sa présence, son intelligence artistique. Mais je comprends bien les gens qui sont moins passionnés que moi. Mais c'est une femme qui impressionne toujours d'un sens ou d'un autre. Et je suis ravi d'entendre ces médecines parce que c'est une fille qui a quelque chose à dire. Voilà.
Merci.
Mais on a, il faut témoigner qu'on a déjà entendu la plupart des choses, sont des extraits, et on se demande l'intention du disque. Qu'est-ce qu'il fait, Sylvain? Il fait fondre ces chocolats de fête.
Alors, Sylvain, tu as été l'homme par qui le scandale est arrivé. On rappelle brièvement, il y a 2 ans, je crois, tu as écrit un article abominable contre Nathalie Dessay, où tu l'as traité quasiment de vivandière en goguette. Un an plus tard, tu écrivais un article dithyrambique sur Nathalie Dessay dans Classica. Donc, tu démontres, s'il le faut, que seul un imbécile ne change pas d'avis et qu'on peut repasser à la loupe les productions d'une chanteuse et dire tout et son contraire, tout en restant un être humain intègre et digne. Sylvain.
Il ne me plaît pas de commenter l'interprétation que tu fais de mon évolution sur Nathalie Dessay. Quant à ce disque, il est évidemment, il reprend évidemment le meilleur de cette chanteuse.
Le best-of.
C'est le best-of du super best-of. Et on a évidemment.
C'est Nathalie Dessay Gold.
On a évidemment le bec cloué à l'écoute de ce disque.
On reste quoi?
Évidemment, on a également le bec cloué à l'audition des premiers disques de Pavarotti, si l'on oublie Pavarotti and Friends. Je veux dire par là que le disque, hélas, n'efface que virtuellement les outrages du temps, et que ce que nous retrouvons là, c'est la Dessay qui a mérité sa gloire, qui a mérité son succès.
L'air qui ouvre le disque est enregistré récemment.
Oui, enfin, récemment, c'est-à-dire pas avant-hier, où à mon avis, il était quand même dans un état de voix de plus en plus déliquescent. Cela dit, ce qui est très intéressant dans ce concept de Mad Scenes, pour revenir au fameux concept, c'est que c'est très drôle que Nathalie Dessay, enfin c'est pas drôle du tout en fait, mais c'est très remarquable que Nathalie Dessay se soit fait connaître de par le monde exactement dans ces scènes de folie et qu'elle ait sélectionné quasiment systématiquement les personnages qui partent en vrille complètement jusqu'à en devenir quasiment une incarnation elle-même. Et voilà, enfin, je dois dire que Nathalie Dessay étant présente dans ce studio, en tout cas par la présence de son avocat, nous ne pourrons pas en dire plus pour aujourd'hui. Ce qui se remarque est la brièveté des interventions, à leur neutralité et à leur indifférence affichée, n'est-ce pas?
Je suis surpris que tu aies un peu d'aisance à t'exprimer avec un fusil sur la tempe. Un Beretta 37 calibre 9.
Alors, je dois dire aussi que Nathalie Dessay est plate.
surtout le bas de son anatomie. Nous présentons ici nos excuses aux représentants légaux de Nathalie Dessay, que nous saluons et avec qui nous entretenons des rapports réguliers mais cordiaux. Mehdi, tu ne t'es pas encore exprimé, pourtant je te vois trépigner sur le bottin que nous avons placé sur ton siège.
C'est un disque à offrir à Noël pour ceux qui ne connaîtraient pas Nathalie Dessay.
Attends, Jacot.
Parce que nous, c'est vrai, nous avons tous déjà entendu tout ce qui compose ce disque. Je trouve que le programme est assez bien conçu, qui boucle la boucle d'une certaine manière de Lucie à Lucia. Voilà, on y entend que des choses assez fabuleuses. L'extrait de Candide. Et puis surtout l'extrait du pardon de Ploermel, Ombre légère, qui est une chose absolument... C'est à couper le souffle, vraiment. Alors c'est extrait du premier disque d'opéra français, donc qui date de 96, je crois.
Ah oui, oui.
Voilà, ça, c'est une...
C'est tout récent.
C'est une pure merveille. Voilà, cette compilation est à écouter sans modération, je trouve, bien mieux faite que la précédente qui s'appelait le miracle d'une voix ou quelque chose comme ça, qui était un peu fourre-tout. Celle-ci, au moins, a le mérite d'une vraie thématique. Non, c'est pour découvrir Nathalie Dessay, c'est tout à fait idéal.
D'ailleurs, on peut la découvrir avec ce disque et puis s'arrêter là.
Mais il y a des choses. Je change de propos. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, que j'ai beaucoup aimé son Ophélie.
Ah oui.
Je trouve remarquable. C'est, parce que c'est en plus capté en live. Et ce qui est fascinant, on peut bien entendre les voix, soit de souffleuses. Plutôt, je pense que c'est un souffleur. Et ce qui est extraordinaire, à un moment donné, on entend aussi, je pense, la voix de la réalisatrice de télévision qui dit « Opa, obo, obo !» Pour couper, je pense, sur une prise de vue de l'orchestre ou quelque chose comme ça, parce qu'on entend les interventions, on dirait que les gens s'ennuient, et c'est absolument remarquable parce qu'elle chante d'une façon absolument passionnante cet air. Mais on a
personne ne joue et elle le joue merveilleusement.
Voilà, ça c'est absolument le cas.
Petite question à Sylvain. Je me demandais d'où te vient cette animosité. On l'a entendu aujourd'hui quand même pour Nathalie Dessay, animosité que tu exprimes partout, tout le temps, sauf peut-être dans le classica. Mais ça vient d'où en fait?
Non, mais je crois que c'est...
Parce qu'on a vu quand même, on a vu plus indigne comme chanteuse. On aime, on n'aime pas, c'est possible. Mais je te sens vraiment quand même un peu.
Non, mais je crois que c'est toi qui cristallise beaucoup, puisque je te rappelle que l'article où il était question de Nathalie Dessay était en fait parlait de bien d'autres chanteurs.
Oui, mais enfin.
Que de Nathalie Dessay et d'autres chanteurs qui d'ailleurs, depuis cet article, ont fait des efforts pour progresser. et si j'en veux à Nathalie Dessay, c'est qu'elle est la seule à ne pas avoir fait d'efforts et qui, au contraire, elle a donné la tête la première dans la décadence que j'annonçais à l'époque.
Très bien. Donc on continue avec...
Je dis ça en toute modestie.
Mais parfaitement. D'ailleurs,
hein,
la modestie est assignée.
Moi, je ne suis qu'un criticule, un criticastre.
tu savais que tous les mots roumains se finissaient par « ul ». Nous l'avons remarqué sur le forum de Forum Opéra où intervient un sympathique ténor roumain du nom de Georg Dragomir et qui nous propose donc des extraits de Manricule dans le Troubadule de Verdi. Donc nous passons maintenant à Sacrificium de Cecilia Bartoli. Alors, comment ne pas aimer Cecilia Bartoli? Elle est gentille, elle est drôle, elle est souriante, elle est disponible, elle parle en français impeccable, comme ferait bien de le souligner Eric Besson. Ses concerts sont pleins, elle porte de belles robes de diva, ses disques sont originaux. Et la voilà qui en plus dénonce dans Sacrificium le martyr des castrats, s'indigne de la grande boucherie organisée qui émascula à la chaîne des milliers de petits garçons privés de leurs attributs et réduits à parler comme Mehdi Madavi. Quelle tragédie. Seulement voilà, en marge des vocalises abracadabrantesques, le message humaniste est voilé par la suspicion de mercantilisme. Et oui, en d'autres mots, Cécilia se serait-elle servie des testicules égrappés pour vendre quelques galettes? On l'écoute dans Cadro ma qual si mira de la Berenice de Francisco Araiza. Oh,
tanto va. Se non resto preso dalla fatal ruina, se ne lungi anche su attonito pastore lo strepito del corpo che impallete lo va.
C'était Cadre ma qual si mira de la Berenice de Francisco Araya. Ah non, c'était Araya. En fait. Rien à voir avec Francisco Araya, dont nous rediffuserons l'interview légendaire que vous avez accordée pendant le podcast d'hommage à. Ah, mais on me fait signe que Francisco Araiza est avec nous. Monsieur Araiza, bonjour.
C'est très beau cet opéra, je l'ai écrit il n'y a pas longtemps.
Merci, merci.
C'est mon opéra.
Donc, nous allons donc terminer par Sylvain Faure, parce que Sylvain Faure a dit du mal du disque de Cecilia Bartoli à partout où il pouvait en dire du mal. Et donc nous allons.
En fait, tu sais ce que je déteste ? C'est le succès et la gloire des autres.
Oui, c'est ça. On a déjà remarqué.
Surtout si en plus ils se font de l'argent.
Tout à fait. Alors, Lawrence, toi qui as chanté avec Cecilia.
Oh, pas mal, oui. Cecilia, voilà. Alors, c'est déjà, c'est une fille incroyable qui sort tous ces trucs inconnus avec des propos. Et on a, si on parle de cadeau de Noël, ce disque, ça fait deux disques déjà. Et un livre avec les propos bien expliqués, avec des photos atonomiques. Atomiques et atonomiques.
Notons la parution de photos atonomiques.
Non, mais c'est incroyable quand tu as fait ta présentation. Là, on a des photos qui justifient pas mal de réflexions. on a Cecilia, la tête de Cecilia collée sur je ne sais pas quoi exactement, mais ce que je trouve très intéressant.
Alors moi, on me dit que la photo n'est pas truquée.
Du tout. Alors, tout le monde va acheter ce disque simplement pour regarder les photos. Il faut acheter le disque parce que c'est fascinant, parce qu'elle est toujours la Cecilia qu'on adore ou on n'aime pas. Moi, je suis toujours impressionné par ses exploits, mais je trouve qu'il y a une chose qui sort de ce disque. Pourquoi, dans le fait qu'on peut chanter ça, soit par les mecs actuellement, ou pour les filles comme Cecilia, pourquoi on a fait castrer tant de gens? Et la grande question, c'est est-ce que ce qu'on entend là, ce qui est formidable, je veux dire, ça nous donne la possibilité d'écouter cette musique et réfléchir, mais c'est un début. Parce qu'enfin, c'est quoi d'être un castrato?
On peut t'expliquer.
Je vais t'expliquer, te décrire mes peines. Alors, non, mais le problème, c'est que les castrati, ils étaient des monstres sur scène. Ils avaient des poitrines énormes, baraquées. Ils étaient déformés par cette déformation de nature. Ils avaient des voix apparemment qui étaient énormes, avec une espèce de puissance comme Birgit Nielsen, avec une agilité, ce qu'on n'entend pas trop sur les disques actuels quand on sort les choses de castrat. On entend la musique, on entend la virtuosité, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que c'était d'être castrato? Et je trouve que
c'est un peu comme dans Jurassic Park, hein. On a les dinosaures, mais est-ce qu'on a vraiment les dinosaures?
Ah, c'est ce que je me pose chaque nuit avant que je me couche. Non, mais je suis sérieux, moi.
On pourrait cloner un castrat.
Non, mais ce n'est pas que je propose faire des expérimentations, sauf qu'on fait encore aux Indes, apparemment, la castration, et on a des résultats physiques qui sont assez extraordinaires. Mais je trouve que...
Tu as l'air de te réjouir.
je réserve mes billets d'avion. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va commencer une espèce d'époque de recherche sur tout cela. Et je ne crois pas ce qu'on entend sur les disques actuels.
Mais tu es gentil, Laurence, de lancer un débat général, mais bon, ici on est pour parler du disque en l'occurrence.
Non, mais
tu n'en as pas dit grand-chose.
Oh, non, mais je te dis que c'est musicalement et artistiquement, vocalement très impressionnant. Mais quelque part, Cecilia a une facilité, un ample de voix qui passe très bien au micro. Mais le propos de castrati, c'était que la voix était énorme et hors de proportion, extravagante. Et je me pose des questions avec tant de recherches qui est présentée dans ce disque. Si on apprend tant sur les castrati.
Laetitia.
Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié ce disque. D'abord, j'ai trouvé, contrairement à ce que tu disais, que le titre était assez bien choisi quand on sait que c'est un groupe de heavy metal.
J'ai rien dit.
Sacrificium étant un groupe de heavy metal, je trouve que ça se prête très bien finalement à ce choix-là. Alors, je laisserai Sylvain faire toutes les critiques. D'après ce que j'ai compris, tu n'es pas un grand amateur de Bartoli.
Du métal, si, beaucoup.
Sylvain Faure a lui-même sacrifié des poulets au cours d'un concert mémorable dans la halle de blé de Toulouse.
Avec des grands ululbans. Quelques points négatifs. Je trouve qu'il y a des roucoulades qui, au bout d'un moment, sont un petit peu pénibles à l'oreille, qui sont proches du yodel. Il y a aussi, notamment pour le Son Qual Nave, la fin est une espèce de cri poussif qui heurte un peu les oreilles. Donc, quelques remarques négatives par-ci, par-là sur les ce que Lawrence appelait les déploiements techniques, la performance, qui sont à la fois objectivement très, très bien réalisés et parfois un petit peu fatigants, j'ai trouvé. Sinon, pour les aspects très positifs et qui m'ont beaucoup séduit, c'était pour tous les chants beaucoup plus... tous les morceaux cantabile où on a vraiment une chaleur, une rondeur de voix qui est extrêmement agréable à l'écoute. On a à la fois, je trouve, une voix masculine dans les graves. On y reviendra, je pense, lors de la prochaine émission sur Jaroussky, où je trouve que pour le coup, ça manque terriblement. Mais on arrive à avoir à la fois une voix très masculine de la part d'une chanteuse et en même temps des aigus très puissants, des grands écarts qui sont fabuleux, avec toujours un grain de voix très riche et très, très épais, très, très rond. Voilà.
Mehdi.
D'abord, je voudrais m'inscrire en faux contre ce qu'a dit Camille de Reich.
Je n'ai pas de bottin sur lequel je suis.
Et j'aimerais rebondir sur ce que viennent de dire Laurence et Laetitia.
Rebondir. On te sent tout bondissant.
On n'a plus pas fait une émission vidéo.
Laurence a parlé de cette puissance phénoménale des castrats. Il a dit qu'on n'était ici que dans l'évocation, ce qui est vrai. Laetitia a parlé de grave masculin. Alors moi, ce que je trouve absolument extraordinaire dans ce disque, comparé à tout ce qu'on fait aujourd'hui sur les castrats, c'est que Cecilia Bartoli y va d'une féminité complètement assumée et hardie, qui n'essaie jamais de contrefaire quelque chose de viril. On a bien une chanteuse ici, et on n'a pas quelqu'un qui essaie de jouer à l'homme castré. Bon, à part dans les photos, mais pour moi, à l'écoute, on a vraiment une chanteuse, une cantatrice, et ça, c'est très important là-dedans, parce que quand on écoute d'autres personnes qui s'engouffrent dans cette brèche, comme Vivica Genot, il y a quelque chose de l'androgynie qui, ici, à mon sens, n'apparaît pas. D'autre part, d'un simple point de vue musical, toutes les réserves que j'avais formulées sur Maria, et tout ce que j'avais détesté dans la somnambule, se trouve ici, à mon sens, balayé dans ce répertoire-ci. C'est-à-dire que ce répertoire convient exactement au type de musicalité qu'est celui de Cecilia Bartoli. Et ce qu'on a d'abord et avant tout ici, c'est une vraie personnalité. C'est un disque extrêmement personnel, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui quand on écoute le disque d'Ildebrando d'Arcangelo ou autre. Ici, on a... Alors, évidemment, Cecilia Bartoli a eu tendance à devenir une forme de produit. D'accord, mais qu'est-ce qu'on a là? On a une explosion de singularité, et c'est d'autant plus saillant, je dirais, à la scène. Comme j'ai eu la chance d'assister au récital au Théâtre des Champs-Élysées, et vraiment cette explosion de personnalité, c'est-à-dire que l'entrée de Cecilia Bartoli se fait dans une espèce d'euphorie d'un public. En plus, elle touche un public très large.
Oh, comme Jacqueline Maillan dans Au Théâtre ce soir.
et moi, même à son entrée, j'avoue que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendue sur scène. J'ai eu une espèce d'émotion qui m'a submergée.
Avant qu'elle ne chante.
Et aussi pendant. Mais voilà, je trouve que c'est une personnalité rare et c'est une raison pour laquelle il faut la chérir. Alors après, c'est vrai qu'on peut un peu pinailler sur l'absence d'un vrai tri, notamment, où c'est vrai les effets yodel sont présents, mais enfin ça on le savait déjà depuis longtemps, ça n'est pas nouveau. Donc voilà, moi c'est un disque que je recommande absolument.
Sylvain.
Sincèrement, je pense qu'on a rarement vu un artiste lyrique mettre autant d'énergie à se caricaturer lui-même. Et je trouve que le résultat est d'un kitsch absolument navrant. Je trouve que tout est kitsch. La photo de couverture est kitsch. Le texte est kitsch, avec cette espèce d'attardement de mauvais goût sur la vie sexuelle des castrats, leur prostitution supposée, leur misère supposée, ce mélange de...
C'est très intéressant.
Ce mélange de fange et de foutre. Enfin, tout ça est assez écœurant. Je trouve que la façon dont Cecilia Bartoli chante aujourd'hui pour la plus grande admiration de ses admirateurs est exactement la façon dont Christina Deutekom chante La Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée enregistrée par Georg Scholti, ce qui à l'époque avait fait hurler de rire tout le monde.
Et qui aujourd'hui est considéré comme une référence.
Non, la Deutekom continue à faire un peu sourire et à être un problème de cette version de Scholti. Je veux dire par là que ce n'est pas du yodel.
Elle a quand même inventé le staccato legato.
Ce n'est pas du yodel, ce n'est pas du yodel qu'elle fait.
Non, c'est bobobo.
C'est une espèce de ululement incontrôlable. Alors, j'ajoute à ça, dans le disque déjà perceptible, une espèce de posture... avantageuse, c'est-à-dire qu'en réalité on ne se pose même plus la question de savoir si ces airs sont tirés d'opéra, à quel moment on est dans l'opéra, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas autrement. De toute façon, il y a inadéquation fondamentale entre la voix de Bartoli et l'air qu'elle chante, puisqu'on sent très bien, et là je rejoins totalement Lawrence, on sent très bien que ces airs sont écrits pour un autre type de voix, c'est-à-dire que la spectacularité, si je veux dire, le caractère spectaculaire de ces airs est lié à une manière que devait avoir le chanteur à l'époque de transcender totalement cette virtuosité. Or, Cecilia Bartoli est virtuose sans transcender réellement tout cela. Bref, on est vraiment dans un produit totalement formaté, mais ça n'est pas le marketing qui m'ennuie, c'est le côté terriblement posture, terriblement imposture de tout cela. Et je dois dire que j'ai vu, à mon grand dam, je suis tombé sur la retransmission ou la captation, je crois que c'est au théâtre, au château de Caserte, de ce récital pris en vidéo, mais c'est à hurler, je veux dire. Enfin, elle prend des airs pénétrés, si j'ose dire. Elle dévale les escaliers du château, puis elle les remonte, elle apparaît dans une loge, et hop, elle bondit sur scène, elle a son habit noir de petit page, c'est ridicule.
Mehdi, peut-être une réponse.
Ah oui, lui, il a le droit de répondre.
Tout le monde a
J'exige un droit de réponse.
Oui, moi aussi.
Le petit page.
La contradiction est telle qu'on ne peut rien répondre. Je veux dire,
c'est fait pour.
On est comme ça.
Oh, c'est la fête. Oh,
C'est comme opposer Gérard Mortier à Nicolas Joël. Je veux dire, on est dans voilà.
Ah non, c'est pas du tout pareil.
Non, c'est pas pareil, mais il y a un propos. Il y a un propos avec Cecilia, et ça commence au moins. Quelqu'un a fait quelque chose pour commencer un débat, pour commencer des recherches, et je trouve que c'est un très bon début.
Mais en plus, vocalement, elle est dans un processus de dévoiement et d'auto-caricature incroyable. On a entendu ici même récemment, et on a tous été subjugués par son récital capté à je ne sais plus où, en Italie, on était tous complètement à genoux. Là, franchement...
Tu parlais du Live in Italy par Richard Deca, enregistré au Teatro Olimpico de Vicenza.
Cette forme de caricature est constitutive aussi de l'art des castrats. C'est-à-dire
kitsch,
qu'on touche...
Non, mais
je pense que
là, c'est constitutif du kitsch. Pour moi, elle est en train de devenir
la Klederman du voit.
Sylvain, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire d'autre dans ce répertoire, à part de... C'est de la musique frivole.
C'est de la musique frivole, mais
c'est
pas
de la
du
musique
tout.
Complètement frivole. C'est comme si tu appelais au bon goût ou à la rhétorique janséniste chez Aubert.
Mais je ne prône pas l'austérité en l'occurrence. Je dis, est-ce qu'il est besoin d'avoir une. Est-ce que cette approche esthétique se justifie? C'est-à-dire,
moi, j'ai l'impression
la posture,
j'ai l'impression
l'absence
d'avoir
de style.
Face à moi,
voilà, enfin, tout ça est.
J'ai l'impression d'avoir face à moi un producteur de disques luthérien de chez Harmonia Mundi qui se pencherait sur une partition et qui dirait qu'il faut chanter Viens, gentille dame avec plus de pénétration.
Mais je l'ai fait personnellement.
Je pense que, de toute façon, ce côté kitsch. On le perçoit bien, d'une part, quand on voit les gravures de Castrat, voilà, qui sont quand même très drôles, et d'autre part, si vous lisez le pamphlet de Benedetto Marcello, Il Teatro alla Moda, on trouve tout ça, et c'est un peu aussi ce qui c'est le bâton pour se faire battre qu'on trouve dans l'opéra seria de Gassmann.
Je suis aussi expert.
On trouve tout ça. Non, mais qu'est-ce que le kitsch? Qu'est-ce que le kitsch? On trouve tout ça baignant dans son jus de la Naples du XVIIIe siècle, transporté au début du XXIe siècle, c'est une espèce d'anachronisme volontaire reconstitué avec des moyens cheap. C'est ça le kitsch.
Des moyens cheap? Quels moyens cheap?
Tout est cheap. Regarde le film. Qu'est-ce que c'est cheap? Cette espèce de gestuelle grotesque, cet air, ce regard faussement pétillant. Enfin, c'est lamentable.
Non, mais
très honnêtement, quitte à acheter Sacrificium, autant l'acheter en format heavy metal.
D'accord, merci beaucoup pour ces remarques pertinentes.
Ça a sa place au rayon variété de Auchan. Voilà ce que je pense.
Très bien. Ou de chez Surcouf.
Chez Surcouf, ils vendent pas de disques, sauf erreur. Excuse-moi. Ils vendent de quoi les pirater, et là, je n'encourage personne à le faire.
Alors, nous passons au dernier disque de ce qu'avec NM, notre disque de référence. Au cours de l'année 2010, nous balayerons du regard l'héritage discographique de Giuseppe Verdi, ou du moins la sélection dure mais juste que nous en aurons faite. À tout seigneur, tout honneur, c'est Sir John qui s'y colle, et pas n'importe quel Sir John. Le moins verdien de tous les barytons, Dietrich Fischer-Dieskau, accompagné ici d'un chef hystérique, hirsute et survolté, Leonard Bernstein. Que retenir de cet improbable témoignage, devenu aujourd'hui impossible à trouver? Nous écoutons le final de l'œuvre, qui fut également les dernières mesures composées par ce grand gredin de Verdi.
Facciamo il parentado a delle cialvi di agioia. Ora terminiamo la scena, poi con serfala staff tutti andiamo a cena.
C'était le final de Falstaff, Leonard Bernstein, Dietrich Fischer Disco, mais aussi Talia Ligabue et Rolando Panerai, ainsi que le formidable Gerhard Stolz en Docteur Caius. On est vraiment, c'est de l'exotisme absolu. Laetitia.
Je trouve ça assez frustrant de devoir écouter cet opéra de Verdi. Uniquement en l'écoutant et sans pouvoir en voir la représentation. C'est une comédie, c'est un opéra bouffe, c'est quelque chose qui donne à rire. Il y a un jeu d'acteurs qui est important. On mesure pas seulement la performance de chanteur, on mesure également la performance d'acteurs et leur capacité à émouvoir, à séduire dans les positions les plus grotesques. Et du coup, du coup, c'est vrai que j'ai eu cette première frustration en écoutant cette version berchtanienne de Falstaff. Après, je dois dire que j'ai été assez séduite dans la mesure où la version que j'en connaissais était celle faite avec Terfel. Et je dois dire que j'avais énormément ri avec ce gros Écossais qui était parfaitement dans son rôle, qui savait...
Alors, je réponds tout de suite à nos amis de l'ambassade d'Écosse que effectivement Bryn Terfel n'est pas écossais mais gallois.
À gallois, pardon,
ne
c'est
nous
vrai.
Envoyez pas du, ne nous envoyez pas du Haggish périmé pour...
Falstaff, lui.
Voilà. Pauvre Laetitia qui ne peut pas terminer.
C'est délicieux.
Le Haggish, c'est de la panse de brebis farcie.
Et c'est absolument délicieux.
Génial.
C'est délicieux.
C'est écossais. On ne le prend pas pour la nuit Burns Night, pour le grand poète.
Avec des petits raisins de Corinthe perdus dans les boyaux. Laetitia, tu peux peut-être t'imposer un peu plus et ne pas me laisser t'interrompre toutes les deux secondes.
J'avais trouvé ça extrêmement drôle, ta petite remarque, c'est pour ça que je riais. Donc j'avais trouvé ce Falstaff très drôle, qui arrivait à chanter même en étant allongé, et surtout qui arrivait à faire des performances vocales dans les positions les plus comiques. Et
Et Médis, s'y connaît en position commis.
Médis, arrête de rebondir.
Le mois prochain, j'installerai dans nos studios une caméra. Et les auditeurs remarqueront que Mehdi rigole comme Philippe Bouvard.
Bondissant.
Faut savoir qu'il fait des petits bonds sur son siège. Ce qui est très jouissif.
Il se secoue. Bon.
Et du coup, je reviens sur cette version de Bernstein où j'ai trouvé Fischer Disco justement capable de faire rire aussi, bien qu'on ne le vit pas. Et d'arriver à avoir encore une fois une couleur de voix, mais on sait que c'est vraiment sa grande force, d'arriver à varier avec des palettes très diverses, être à la fois presque vulgaire à certains moments, mais drôle, tendre, d'être très varié dans ses expressions. Et du coup, ça m'a énormément plu. Ainsi que les performances de Regina Resnick, pardon. Qui arrive à descendre dans des registres de presque contralto de façon assez impressionnante.
Sylvain.
Je suis en accord avec ce que vient de dire Laetitia, dans la mesure où une grande partie de ce spectacle, enfin de cet enregistrement, tient à l'équipe qui a été constituée pour les représentations. Et dans ses mémoires, Fischer Dieskau les raconte et raconte tout le travail qu'il a été amené à faire avec le metteur en scène qui était Visconti, si je ne me trompe, sur ce personnage qui était trop gros pour lui, trop petit pour lui. Lui était une espèce de grand échalas, il ne se voyait absolument pas dans cette peau-là. Et il raconte de façon assez fine de quelle manière l'habit a fait le moine pour lui et de quelle manière le fait de se retrouver avec une panse factice a modifié complètement sa vision musicale du personnage. Donc effectivement, l'aspect scénique est très important, et en réalité, on est dans un cas où Fischer Dieskau, qui est un chanteur souvent considéré comme intellectuel ou intellectualisant ses rôles et souvent ayant chanté pour le disque des rôles qu'il n'avait jamais incarnés à la scène, et là dans un cas de figure où il a trouvé sur scène la clé d'un personnage qu'il n'avait pas trouvé à la table, comme il le faisait si souvent. Donc effectivement, c'est une expérience vocale extrêmement intéressante et importante pour un chanteur que tu dis très justement n'être pas verdien de couleur, mais qui est profondément verdien, je pense, dans la caractérisation. C'est-à-dire que c'est un chanteur qui, beaucoup mieux que beaucoup d'Italiens, caractérise énormément ses personnages et finalement a laissé des témoignages verdiens.
Attention, soyez honnête, moi je suis un discolâtre absolu.
Je sais, c'est pour ça que je
vénère son Macbeth, je vénère son Rigoletto, son Iago.
Donc. Non mais tout à fait, mais quand tu dis, mais je sais, donc quand on dit qu'il n'est pas verdien, en fait c'est vrai qu'il n'a pas une prédisposition à cette vocalité italienne, mais il a toutes les prédispositions à la caractérisation verdienne et c'est ça qui ressort dans cette version. Je dois dire aussi que, malgré tout, c'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est là, malgré tout aussi, qu'on sent que Verdi n'est pas non plus totalement italien. C'est-à-dire qu'on sent très bien chez Verdi une manière de dépasser totalement l'idée de vocalité italienne. Et Fischer Dieskau est typiquement le chanteur qui prouve qu'en réalité, on n'a pas besoin d'avoir une couleur ensoleillée ou, pour un baryton, une espèce de voix de bronze, pour rendre compte de ces personnages.
Il existe... C'est peut-être aussi là qu'on remarque que Verdi avait ouvert les frontières de son horizon musical.
Absolument. Et il existe un très bel enregistrement de Falstaff où Fischer Dieskau, cette fois, incarne Ford et donne la réplique au grand baryton allemand Metternich, Joseph. Ah oui. Absolument. Et c'est le grand duo de Ford et Falstaff en allemand. Et or, c'est absolument merveilleux. Et c'est vrai que, en l'occurrence, l'italien ne nous manque pas, car le ton de la conversation y est, la subtilité de la caractérisation y est, et c'est là qu'on voit que l'idée que Verdi serait vraiment une espèce d'épigone des grands compositeurs d'opéra italiens fait long feu. En réalité, ce qui compte chez lui, c'est vraiment l'incarnation, la caractérisation, et cette version avec un Bernstein lui-même assez peu verdien au fond. On est vraiment la preuve.
Justement, un petit mot sur cette direction complètement hystérique et virtuose. Il y a quand même les dernières mesures ou même les toutes premières mesures qu'on n'a jamais entendues exécuter aussi rapidement, aussi vives, aussi déterminées.
Absolument. Mmh. C'est très curieux parce qu'au fond, l'orchestre de Falstaff, qui est vraiment d'une science extrêmement subtile, réussit parfaitement au grand chef symphoniste. Pour moi, par exemple, l'enregistrement de Karajan est probablement un des plus grands enregistrements d'opéra jamais réalisés parce que Karajan a une approche de symphoniste. Alors que d'autres enregistrements, dirigés par des Italiens spécialisés dans l'opéra, passe à côté de la subtilité orchestrale de cet opéra, ce qui n'est évidemment pas le cas de Bernstein.
Mehdi.
Pour poursuivre là-dessus, c'est vrai que sans doute Toscanini aurait crié « Vergogna » comme il l'avait fait en entendant le requiem de Verdi dirigé par Vittorio De Sabata.
Toscanini avait un petit côté vieux con.
Non, c'est, la performance de l'orchestre est vraiment absolument ahurissante. Laetitia disait qu'on était frustré par le manque de théâtre, mais là tout le théâtre est dans l'orchestre, dans cette virtuosité absolument ébouriffante. Écoutons les contrebasses au début du troisième acte, enfin, c'est absolument inouï, c'est inouï. Et ce que fait Bernstein, qui n'est pas estampillé verdien, c'est son seul enregistrement d'opéra de Verdi, il a aussi enregistré le Requiem, mais c'est complètement fou. Enfin, oser aller aussi loin, ça bouscule en permanence l'orthodoxie verdienne, mais c'est juste, enfin, c'est décoiffant, c'est électrisant. Et puis, c'est vrai que la distribution a mûri à la scène. Alors, Fischer-Dieskau s'invente des couleurs absolument insensées, Ligabué est formidable de liquidité du timbre.
Une chanteuse méconnue disparue
trop tôt. C'est extraordinaire. Mais... Bon, Panera, on pourra le préférer chez Karajan, mais quand même, enfin, l'équipe est formidablement soudée. Il suffit de fermer les yeux et la scène, on la voit. C'est un enregistrement que malheureusement on trouve peu en France. Je crois qu'en Belgique on le trouve plus facilement. Il a été réédité.
Tout à fait.
Il a été réédité par Sony assez
parce
récemment.
Parce que nous les Belges, ça nous fait beaucoup rire.
Donc, contrairement à ce que tu disais, Camille, il n'est pas introuvable et heureusement parce que c'est une manière de référence. On peut pas dire que c'est une référence parce que c'est trop éloigné, disons, des canons verdiens tels qu'on les entend. Mais c'est une expérience formidable, quoi, cet enregistrement.
Alors, il y a un enregistrement sur YouTube de la représentation d'Aix-en-Provence, 1987 ou 1989, je ne sais pas. L'air de Fenton, un jeune Anglais, alors nubile, gracieux et vêtu de pyjama jaune ample. Chantant Fenton extraordinaire, c'était Lawrence Dale. Il était à côté de José Van Damme. Lawrence, justement, donc tu as un insight, comme on dit dans ta langue, sur cette œuvre.
Je suis très insight parce qu'il y a tant de liens avec cette œuvre que j'ai chanté presque plus que d'autres, un peu partout.
Presque plus que d'autres.
Non, mais je veux dire, d'autres rôles. J'ai joué pour chanter Mozart, mais.
Et un peu moins que plusieurs.
Arrête, je regrette d'avoir ouvert la bouche. Non, mais pour dire que c'est une de mes œuvres préférées, c'est pour moi un des chefs-d'œuvre absolus de théâtre musical. Je veux dire, c'est le lien entre la parole et la musique, c'est absolument extraordinaire. Et ça fait longtemps que je voulais entendre cet enregistrement. C'était très peu disponible et maintenant, j'espère, disponible parce que pour moi, c'est une référence absolue. Le travail, comme Mehdi vient de dire beaucoup mieux que moi, c'est sublime. C'est sublime. Il n'y a pas une note qui n'est pas considérée inconçue. Chaque participant presque, mais c'est dommage, on commence avec le caillus de Gerhard Stolz, qui est un peu, on dit, mais qu'est-ce que c'est?
Mais même Gerhard Stolz est génial.
Non, mais
comme
c'est
dans
incroyable.
Tout ce qu'il fait,
mais le premier note, c'est un peu, ouh, c'est quoi ça? Mais la manière dans laquelle c'est driven, la première scène, c'est
Alcan.
C'est incroyable. Mais j'ai une autre petite chose à dire, parce que j'ai une petite expérience avec Bernstein lui-même. Et puis, nous étions dans un dîner à côté d'un autre à Covent Garden, à Londres. Et puis, il m'a dit, mais OK, Larry, qu'est-ce que tu fais prochainement? Je dis, je vais à New York pour chanter Fenton, dans Falstaff. Et il dit, ah, allez hop, on va chanter. On va chanter le duo de Nanette. Et lui, il chantait Nanette. Et moi, en plein public, c'était un peu, mais il était extravagant. Moi, j'ai renversé un verre de, presque un verre de champagne sur Eva Turner qui criait. Et à ce moment-là, tout le monde regardait Eva Turner, qui était le grand soprano dramatique.
dramatique qui faisait le deuxième spectacle de Turandot. Et même à 94 ans, elle avait des aigus assez impressionnantes. Tout le monde regarde et à ce moment-là, Bernstein mettait sa langue dans mon oreille. Alors, c'était un moment inoubliable. Mais jusqu'avant cet événement, il a dit « Falstaff, c'est mon meilleur enregistrement. » Et je suis absolument d'accord. Pour moi, c'est un moment qui, on ne peut pas comparer avec les autres enregistrements. On peut dire, comme toujours avec Bernstein, je viens d'entendre, je vais diriger prochainement les variations d'Elga, d'Enigma. Bernstein a fait un enregistrement de cette œuvre il y a 30 ans, je pense, qui faisait, tout le monde criait scandale, parce qu'il a fait comme Mahler. Et c'est simplement génial. Il n'y a pas un autre chef qui peut faire comme lui. Il ne dirige pas la musique, il dirige la vision de Bernstein de la musique. Et dans ce Falstaff, cet enregistrement de Falstaff, on a un testament à une vie, une création, une imagination d'un monsieur qui dominait la musique aux États-Unis et d'ailleurs à Vienne pendant un certain moment, quand il était souvent à Vienne et puis à la Scala avec Callas. Pour moi, c'est un truc absolument bouleversant et inimaginable.
Merci Lawrence. Donc on va terminer ce qu'avec Anne par notre habituel double tour de table en deux sens aller-retour de l'objet culturel qu'on a aimé, de l'objet culturel qu'on n'a pas aimé. Je rappelle la règle du jeu qui est très simple mais que Lawrence à chaque fois a tendance à oublier. Donc on ne parle pas d'opéra mais donc un objet culturel qui n'est pas de l'opéra, cinéma, livre.
Je vais être très consensuel et je vais dire que j'ai vu le ruban blanc et que c'est un chef-d'œuvre.
Est-ce que tu as abusé des nerfs les plus faibles de ton anatomie?
En tout cas, je n'ai jamais été puni.
Tu étais ligoté à ton lit.
Jamais. Non, c'est un film dont on sort complètement abasourdi. D'abord la photo. Je veux dire, il y a ces paysages de neige qui sont simplement transcendants. Enfin, on pourrait s'arrêter là, ne serait-ce que la beauté formelle du film. Après, il y a tout le contenu. Mais bon, ce que je dis a déjà été dit par tout le monde, donc je vais pas le répéter.
Laetitia.
Est-ce que les expositions rentrent dans le cadre? Alors, si je devais en conseiller une actuellement, c'est l'exposition de Ensor au musée d'Orsay, que j'ai trouvé assez génial parce que très pédagogique, on passe par toutes les étapes d'inspiration de ce peintre, donc peintre expressionniste de fin 18e, début 19e.
Et belge.
Et belge, et je suis en train de dire une bêtise, vous pouvez décaler d'un siècle. Donc on passe par des étapes d'inspiration impressionniste, pointilliste, on voit des parallélismes géniaux avec la peinture de Rembrandt, de Goya. C'est un très beau moment à passer.
D'ailleurs, j'en sors.
Pas mal.
Sylvain.
Écoute, je vais faire très simple. Je vais sortir de ma poche un petit livre que j'ai acheté récemment, que j'ai trouvé tout à fait par hasard, et qui s'appelle, qui d'ailleurs peut-être n'est plus édité, dans la collection Poésie Gallimard, et qui s'appelle Chansons françaises de la Renaissance.
C'est extra, ça.
Ouais, c'est extra.
Tu l'as lu?
Oui.
C'est absolument incroyable. On prend n'importe quelle page, et c'est magnifique. Par exemple, alors la plupart des poèmes sont des poèmes du milieu du XVIe siècle, et sont anonymes, souvent des chansons. Et longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.
C'est du Charles Trenet, ça, non?
Tout à fait.
Longtemps.
Les chantonnent en ignorant le nom de l'auteur, en oubliant le nom de l'auteur. Bon, par exemple, qu'est-ce qu'amour? Rien que vivre sans vie, mourir sans mort, repos plein de travaux. Ces voluptés de douleur assouvie, fin de tout bien, commencement de mots.
Oui, c'est ravissant.
Oui.
Bon, moi j'ai beaucoup aimé le clip des jeunes de l'UMP, justement décrié, et plus particulièrement la performance d'Eric Woerth, qui me rappelle étrangement notre fidèle partenaire de toujours, Jean-Philippe Thiellet, qui malheureusement est absent qu'avec Anem depuis plusieurs mois, car justement il tournait ce clip. Car ce qu'on ignore, c'est que...
Coachait Eric Woerth.
Jean-Philippe Thiellet étant le sosie officiel d'Eric Woerth, a tourné à la place du ministre ce clip. D'ailleurs, j'aimerais que nous saluions tous Jean-Philippe Thiellet qui nous manque.
Salut Jean-Philippe.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Et puis Christine Lagarde aussi.
Ah, bonjour, oui, Christine. Bonjour, Christine. Formidable. Bonjour Christine. Numéro 1 pour
Christine Lagarde, qui, vous l'avez vu, se déhanche dans son bureau. Mm-hmm. Et bien entendu, Nadine Morano.
Bonjour Nadine.
Bonjour Nadine.
Voilà, merci. Lawrence, tu passes ton tour, j'imagine. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé?
Non, c'est pas. Malheureusement, je dois avouer que je viens de rentrer aujourd'hui ou hier soir d'un mois en Moldavie. Alors, je suis en manque.
L'offre, insinuerais-tu que l'offre culturelle en Moldavie.
Moldave est très pauvre.
Mais il faut le dire, c'était une révélation.
Donc, Lawrence, tu veux nous parler de l'architecture moldave?
Oui, on a beaucoup de mal, il faut le dire. Moi, j'ai habité dans un HLM, ce post-soviet bloc. Alors, c'est un peu bizarre quand on achète quelque chose à manger ou boire. Et alors, on est entouré par les gangs d'abrutis comme ça, qui sont presque sobres parfois. Mais le vodka coule pas. Non, mais c'est fascinant.
Fascinant.
Fascinant, mais j'ai rien vu de très culturel dernièrement. J'étais en train de créer quelque chose de culturel là-bas.
Donc en Moldavie.
Oui, et je reviens, je rentre là-bas bientôt.
Et nous saluons au passage nos amis du Lawrence Dell Moldavian Fan Club.
Il faut le dire.
Qui nous écoutent tous les jours sur des postes à galène.
J'espère.
Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas aimé quelque chose, Mehdi? Oui.
Je suis allé voir au Louvre l'exposition Titien, Véronèse, Tintoret. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que je n'ai pas aimé les peintures de ces trois immenses artistes. Non, ce que je n'ai pas aimé, c'est l'exposition en elle-même. D'abord, les tableaux sont très mal éclairés. Il faut tourner autour pendant 3 heures avant de trouver l'angle sous lequel on peut à peu près apercevoir quelque chose. Les salles sont trop petites pour les formats des tableaux. Voilà, enfin, c'est toujours le problème dans ce genre d'exposition, c'est qu'on a une richesse iconographique absolument extraordinaire, mais c'est mal foutu. Alors voilà, bon, il faut y aller évidemment parce que l'occasion de voir ces tableaux réunis, confrontés les uns aux autres est exceptionnelle, mais j'avoue que peut-être dans un espace plus grand, ça aurait plus d'impact.
Laetitia, il y a quelque chose que tu n'as pas aimé?
La remarque de Mehdi sur l'exposition en elle-même.
Tu ne l'as pas aimé. Car tu es toi-même le commissaire de l'exposition.
Non, j'ai trouvé que pour une fois, on n'avait pas une exposition avec des éclairages à n'en plus finir. On avait... pas la plupart, mais un certain nombre de ces peintures étaient destinées à des églises ou en tout cas disposées dans des ensembles religieux. Du coup, ça aurait été décalé que de les avoir justement dans des espaces très grands, palatiaux, avec multiples éclairages. Ils sont faits pour être observés dans la pénombre d'une église, dans le recoin d'une petite chapelle. Du coup, c'est plutôt au contraire assez justement trouvé.
Je ne parle pas d'absence de paix.
Sylvain, rapidement.
J'ai médiocrement aimé le débat sur l'identité nationale.
Oui, c'est très malvenu.
Et je trouve que lancer un débat sur l'identité nationale pour finir avec un débat sur la burqa, c'est un peu triste dans ce pays qu'on appelle la France.
Oui, mais au moins on peut y construire des minarets dans ce beau pays qu'est la France. Nous, quoi, on peut pas.
Non, mais tu as tellement raison.
Voilà. Nous... Merci de me donner.
Bah, excusez-moi, j'ai donné un souffle comme ça.
Tu as raison,
Je partage ton soupir.
D'ailleurs, par solidarité, nous avons construit des minarets dans les locaux de Forum Opéra.
Je suis acide.
Mesdames, messieurs, merci d'avoir eu le courage d'écouter cette émission jusqu'au bout. Et Dieu sait si ce fut laborieux. Nous vous souhaitons un extraordinaire Noël. Dans la paix, dans l'amitié, dans l'amour. Que tout le monde soit heureux, en bonne santé. Et nous terminons par la chanson Have Yourself a Merry Little Christmas chantée par Doris Day.
Have yourself a merry little Christmas. Let your hearts be light. Next year all our troubles will be out of sight. yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year, all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together, if the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow.